toutes, bienvenue à l'écoute de Radio Canut si vous nous rejoignez. Vous étiez juste avant avec Sable. Vous êtes à l'écoute du Canut Info de ce jeudi 24 juin 2021. Il est 19h02 à l'une de mes pendules, parce que j'en ai plein autour de moi. J'ai en face de moi Laurent qui s'agite au-dessus de la technique. Vas-tu bien ?
Oh oui, oui.
Oui, 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 tu me dis. Alors, il s'avère... J'ai pas fait de déroulé, donc je me souviens plus trop de quoi on parle.
C'est moi qui ouvre.
C'est toi qui ouvre. Ensuite, on va parler d'un film, 143 rue du désert, ce qui nous permettra un tout petit peu de, parler de l'Algérie. Je dis un tout petit peu parce que ça serait pas sérieux de prétendre autre chose. Il me semble que tu auras un sujet pour terminer sur le Japon et le travail.
Exactement.
Au milieu de tout ça, tu as un autre sujet que j'ai oublié. Tu peux me le rappeler, s'il te plaît.
Non, je te le dis pas, c'est un secret.
C'est un secret.
Si, je vais parler du retour du service militaire sous un nom qui s'appelle, qui est différent, qui s'appelle le SNU.
Il me semblait. Nous irons du côté de l'Arménie pour parler aussi d'élections, puisque ça a été une grande réussite, hein, ces élections régionales et départementales en France. Un grand moment avec tout plein de gens qui se sont déplacés, des queues énormes devant les bureaux de vote pour donner un consentement par un petit papier dans une urne. Une folie gigantesque de gens qui sont allés voter. Évidemment, c'est pas vrai. Peut-être que c'est votre cas, que vous n'êtes pas allé voter. Peut-être que c'est pour des raisons politiques. Vous êtes peut-être une anarchiste rebelle qui ne veut pas d'une démocratie parlementaire et d'une représentation dans ces régions. Peut-être faisiez-vous partie de ces mouvements des Gilets jaunes qui ne se reconnaissent pas aussi aujourd'hui dans la politique que nous présentent les uns et les unes dans leur programme, ou leur absence de programme d'ailleurs, hein, parfois dans certaines régions. Peut-être que ça vous emmerde profondément, peut-être que vous étiez à la plage. En tout cas, quelles que soient les raisons, vous êtes certainement nombreux et nombreuses à nous écouter, à ne pas avoir été votés. Ça nous fait bien marrer, nous, dans cette émission, parce que on prétend que c'est la faute à plein d'excuses. Enfin, je veux dire, il y a plein d'excuses bidons, mais on semble pas bien écouter, en tout cas, ceux et celles qui vont plus voter, quelle que soit la raison, parce que le je m'en foutisme est aussi une raison valable, qui semble aussi peut-être démontrer que les gens, finalement, se moquent de la manière dont le pays est géré, hein, voilà, mais peut-être qu'il y a de plus en plus d'anarchistes aussi.
Faut pas rêver non plus.
D'accord. Je voulais savoir ce que tu en pensais quand même de cette question. Voilà, en tout cas, on entend beaucoup les médias rabâcher que là, c'est horrible l'abstention, mais en même temps, on peut peut-être aussi critiquer les programmes et démontrer aussi que ce qui est à l'intérieur des programmes de nos représentants et nos représentantes est assez peu intéressant pour une partie des votants et des votantes, et que finalement, entre ceux et celles qui s'en fichent, ceux et celles qui sont anarchistes et ceux et celles qui se reconnaissent pas dans les programmes ou dans les candidats et candidates, ça donne un taux d'abstention qui, à chaque élection, est grandissant, hein, quand même, parce que c'est pas une exception, ces élections-là, c'est de pire en pire, il faut bien le dire. Alors, on attend évidemment qu'on puisse à un moment avoir une vraie représentation du bulletin blanc, du nul, pour aller pouvoir, dans le vote, montrer aussi notre désaccord, parce que pour l'instant, même quand vous allez mettre un bulletin blanc en revendication, il n'y a pas vraiment de revendication derrière, après, qui va se retrouver dans les élus et les représentations. Donc c'est aussi un petit peu tout ça qu'on entend peu finalement aussi dans les médias, qui nous parlent beaucoup dans les l'abstention. Alors excusez-moi, on va essayer de reprendre un petit peu cette émission et donner suite au programme. Donc je vous le disais, on vous parlera d'un film qui se passe en Algérie. Ça nous permettra de reparler aussi des élections algériennes dans lesquelles il y a eu une très grosse abstention. Donc il n'y a pas qu'en France où il y a cette problématique. On ira voir aussi du côté de l'Arménie, où là les gens ont été particulièrement votés. Voilà. Il y a aussi plein d'élections à l'étranger et on va aller retrouver tout ça. Mais si tu veux bien, c'est à toi de commencer, Laurent.
Oui, alors moi je vais commencer à parler de Frontex, puisque c'est à nouveau dans l'actualité. En fait, il y a une structure, un collectif qui s'appelle Abolish Frontex, c'est en anglais. C'est une sorte de groupuscule, de coalition, qui regroupe une quarantaine d'associations et d'organisations. Alors on trouve des gens d'extrême gauche, puis des ONG, enfin des choses assez variées. Qui demande donc officiellement la fermeture de Frontex. Bon, ça c'est pas nouveau non plus. On rappelle, Frontex est l'agence européenne pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Dans une lettre ouverte qu'ils ont adressée à la Commission européenne, au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen, Cette coalition dénonce les pratiques illégales et inhumaines de Frontex, accusée de promouvoir et d'appliquer des politiques violentes à l'encontre des migrants. On a des témoignages régulièrement, et ce, toutes les semaines. Les pétitionnaires, les militants d'Abolish Frontex, dénoncent une pratique qui, au nom de la sécurité, met en œuvre des politiques qui affectent violemment la vie de celles et ceux qui cherchent à entrer dans l'Union européenne. Pour quelques petits chiffres, 750 personnes sont mortes cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Le système frontalier de l'Union européenne oblige les migrants à emprunter ces itinéraires dangereux et peu sûrs, fait appel à des pays comme le au nord du Maghreb, enfin au nord de l'Afrique, qui profitent de la situation des migrants et finalement les laissent partir dans des petites barques, dans des choses comme ça. Donc tout ça, c'est issu de la politique de Frontex. Alors le coût de cette politique, de Frontex, c'est avant tout des vies humaines. Hein, on a en tête, là j'ai donné pour cette année 740 personnes, mais en fait c'est 40 555 morts depuis 1993. Cherchant juste à traverser la Méditerranée pour entrer dans l'Union européenne. Et puis il y a des gens qui sont morts de froid aussi dans les montagnes. Enfin voilà, on a pas mal de choses, mais majoritairement c'est dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique ou dans les déserts libyens. Enfin voilà, dans toutes ces choses qui sont les frontières extérieures de l'Europe actuellement. Et puis il y a ceux qui se suicident dans les centres de détention. Ou de rétention, on appelle ça comme on veut. Toutes ces choses-là. Ça fait 40 555 morts. Alors, ça a aussi un coût financier, Frontex. Si on se rappelle, au début, ils étaient 750 personnes à bosser en 2019 à Frontex. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 fonctionnaires européens qui bossent dans cette agence. Ils ont prévu de mettre 5,6 milliards jusqu'en 2027. Voilà l'argent européen qui finance Frontex. Alors ça fait l'objet de nombreux critiques au sein des institutions européennes. C'est dans le collimateur de l'OLAF, donc l'OLAF c'est l'organisme de surveillance antifraude de l'Union européenne, pour des comportements répréhensibles et des opérations illégales, toujours visant à empêcher les migrants d'atteindre l'Union européenne, mais hors de la légalité. C'est-à-dire que Frontex agit illégalement contre des gens qui essayent de rentrer illégalement aussi dans l'Union européenne. Par contre, bien évidemment, Frontex pour l'instant est protégé. C'est des rejets, ça s'appelle les pushbacks. En fait, c'est les gens qui sont rejetés alors qu'ils n'ont pas pu faire leur demande. Or, dans les règles de l'Union européenne, on doit permettre aux gens de faire leur demande pour demander s'ils peuvent venir en Europe dans tel ou tel pays. Et ça, Frontex, en fait, les empêche de faire cette première étape. Il y a d'autres critiques. Il y en a une qui émane de la Cour des comptes européenne, qui a publié début juin un rapport dans lequel elle affirme que Frontex, je cite, « n'offre pas aux États membres un soutien suffisant dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne ». Donc la Cour des comptes dit que ça coûte de l'argent et que ça ne sert à rien en fait. C'est un peu ça le truc, à part faire mourir des gens. Voilà. Fin mai, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a publié un rapport qui s'appelle, alors c'est en anglais, ça s'appelle Lethal Disregard, Search and Rescue and the Protection of Migrants in the Central Mediterranean Sea. Donc dans ce rapport, c'est une étude menée entre janvier 2019 et décembre 2020. Qui, grosso modo, constate que la Méditerranée, à cause de l'utilisation de Frontex, ça se transforme en fait une mer à tombeau ouvert. Grosso modo, c'est la conclusion de ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il cite 5 problèmes: la non-assistance aux migrants en danger en mer, l'interception et les sauvetages dangereux, qui finalement tue aussi le fait d'intervenir, les rejets et les criminalisations des ONG et des militants, et le différent retard dans les débarquements, et puis finalement l'empêchement d'avoir un accueil normal qu'aurait droit tout migrant ou toute migrante. Alors ils expliquent, c'est pas une fatalité ce qui se passe. Ils disent c'est juste les pratiques voulues par les institutions européennes. Ça dépend que de ça. Alors bien sûr, face à ces critiques, alors là, on est dans les critiques gentilles, hein, c'est les critiques voilà, de ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est donc l'OLAF sur la partie anti-fraude, ou fraude plutôt du coup, mais eux, ils sont dans la lutte anti-fraude. Bien, par rapport à ça, il y a aussi des critiques plus radicales. Bien évidemment. Et dans ce groupe, l'abolition Frontex, on va bien plus loin que ça. On va bien plus loin que les critiques du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, même si on a les mêmes constatations. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes constatations de dangerosité, de mise à mort, finalement, de ces gens qui essayent de venir dans l'Union européenne. Donc voilà. Alors, l'idée, c'est ben oui, de se débarrasser de Frontex, mais aussi de se débarrasser des politiques xénophobes qui accompagnent Frontex. On rappelle que Frontex, c'est en fait pas simplement une agence, l'agence la plus meurtrière de l'Union européenne pour les citoyens non européens. C'est bon, voilà, ils ont le record, mais c'est aussi un outil politique utilisé par les différents partis pour dire regardez, on a une Europe sécuritaire. Donc c'est aussi ça, Frontex. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ces politiques xénophobes. On pense notamment au principe qui est dans toute l'Union européenne de détention administrative des personnes en séjour dit irrégulier. C'est-à-dire que toute personne qui migre, qui a pas le papier qu'il faut, on le considère comme un criminel et on le met dans une prison qui s'appelle des centres de détention administrative, des centres de rétention, enfin, on appelle ça comme on veut. Donc il faut faire sauter ce truc-là qui est quand même incroyablement dégradant pour des régimes qui se prétendent démocratiques, puisque les gens passent pas devant la justice, ils sont mis en prison avant, enfin voilà, et ils ont commis aucun crime, alors qu'ils vont quand même en prison dans ces centres de rétention, de détention administrative. Bon, bien évidemment, l'idéal, ce serait d'éliminer les frontières. Hein, on rappelle que c'est le principal outil, donc là, de discrimination, de séparation, de théâtre de tant de violence et tant de guerre. Si on n'avait pas de frontières, finalement, on aurait peut-être eu beaucoup moins de soucis.
C'est souvent le cas dans beaucoup d'endroits où on peut penser que les choses seraient quand même plus agréables si on n'avait pas ces frontières. Alors, on avait envie de vous parler ce soir d'un film d'Hassen Ferhani, 143 rue du désert, qui n'est à aucun moment présenté dans sa bande-annonce comme un documentaire, et pourtant c'est la forme, pourtant le contenu de ce film qui fait du bien, qui est extrêmement beau. C'est l'histoire de Malika sur une route dans son cabanon, le Sahara, sur une route en plein désert, sur lequel passent les camions et quelques voitures, qui tient cette échoppe avec du thé, quelques œufs pour faire des omelettes, des cigarettes et de l'eau. Et cette Malika, 74 ans au moment du tournage, est seule dans cette échoppe et voit l'Algérie passer finalement devant ses fenêtres et accueille essentiellement des hommes qui viennent lui raconter leur vie, leur voyage, parfois régulièrement, puisqu'il y a des routiers, des gens qui vivent à côté. Et c'est ces rencontres que nous raconte ce réalisateur, avec une forme qui est très belle. D'abord, il n'y a pas de jugement, il y a très peu de choses écrites dans ce documentaire. C'est la forme de ce réalisateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas pré-écrire son documentaire. Ça se fait dans le documentaire, il y a des gens qui pré-écrivent extrêmement bien, qui ont un synopsis très précis, et puis d'autres qui se laissent porter par la rencontre et ce qui se passe devant la caméra. Et c'est ce qui se passe ici dans ce film, où on a une équipe très réduite, hein. Vous avez un générique extrêmement court, un des plus courts que tu aies certainement pu voir de ta vie.
Certainement, ouais, le plus court de l'histoire des films.
Voilà, quand on voit des films de Disney, du studio Marvel, qui durent près de 10 minutes, là, en 45 secondes, l'affaire, elle est faite. Et ben, faut dire que ce réalisateur, il est allé juste avec un ingé son, et puis il a posé sa caméra, avec beaucoup de subtilité souvent, puisqu'elle bouge très peu cette caméra, hein, elle est sur son pied ou sur son épaule. En tout cas, elle ne va pas nous faire des grands plans démonstratifs, mais simplement une fenêtre ouverte sur le désert et sur une route, avec une lumière jaune, blanche, selon la lumière du soleil, la saison aussi. Et c'est ces rencontres de Malika qui sont extrêmement intéressantes. Alors, c'est une forte gueule, Malika, qui en a vu passer d'autres, qui est isolé, hein, quand même, sur cette route. Isolé dans le lieu, mais qui essaie... isolée en tant que femme. Elle a Diane, le chien, Mimi, le chat, et puis ces rencontres qui viennent à elle, parfois un peu ubuesques, avec cette touriste européenne, femme sur sa moto. Elle appelle ça les Indiens. Malika, elle donne des noms aussi à ces rencontres. Et puis, il y a aussi cette Algérie, cette nouvelle Algérie qui était censée arriver avec ces élections, qui passe devant elle, et on a les critiques qui apparaissent aussi, et une critique de l'Algérie, ça va être les religieux, les imams qui passent, et que finalement elle envoie bouler parce que ça lui plaît pas bien, hein, ces intégristes religieux. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va nous le raconter. Mais tout est dans la petite phrase, dans le regard et dans la manière dont elle s'adresse. Est-ce qu'elle regarde les gens dans les yeux? Est-ce qu'elle s'assoit à côté? Est-ce qu'elle leur parle? Est-ce qu'elle joue? Parce qu'elle s'amuse aussi beaucoup avec certains de ses passagers, de ces moments de rencontre dans son échoppe. Ça peut être aussi ces hommes qui viennent d'ailleurs, de l'Afrique noire, et qui viennent chercher du travail en Algérie et qui trouvent que c'est vachement mieux que chez eux. Alors que on sait qu'on a aussi des gens du Maghreb qui viennent chez nous parce que c'est vachement mieux chez nous. Donc ça parle aussi de ces migrations, de ces rencontres, et puis de la position de la femme en Algérie, hein, parce que elle est toute seule, elle n'est pas mariée, elle n'a pas les enfants. Donc elle ne correspond pas aussi à ce qu'on pourrait attendre d'elle, et en particulier dans une Algérie religieuse, conservatrice. Donc c'est un très très beau film. Je sais pas ce que tu en penses, toi, oui. Laurent.
Non, j'ai rien à dire de plus.
Tu n'as rien à dire de plus. Eh ben, c'est très bien.
C'est un très beau film.
Il avait fait dans ma tête un rond-point, hein, déjà, ce réalisateur. Moi, je trouve déjà très intéressant qu'on puisse avoir ce cinéma ici dans nos salles, parce que c'est un cinéma différent, qui se passe en Algérie, avec un auteur algérien. Et ça nous raconte quelque chose d'autre que le cinéma qu'on peut voir habituellement. Et puis, ça veut dire qu'il y a des financements qui permettent aussi de la diffusion ici, que c'est vachement bien. Un tout petit film comme ça, je trouve ça exceptionnel qu'on puisse le voir, parce que c'est de plus en plus rare, hein. Il y a 10, 20 ou 30 ans, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est plus exceptionnel. Et puis, c'est un film qui nous raconte un pays sans effusion, sans morale, avec une facilité, finalement, c'est très tranquille, ce film. C'est la force de Malika qui va nous raconter plein de choses, et toutes ces rencontres au bord de la route, et en particulier dans cette zone quand même assez désertique et assez particulière. Donc voilà, nous on vous invite vraiment à aller voir 143 rue du désert, ou en tout cas à le voir, le si un jour vous l'avez en VOD ou en je sais pas quoi. C'est vraiment un très très beau film, avec une Malika absolument exceptionnelle.
Ça fait très striptease quand même, dans la manière de ne pas intervenir, de laisser poser la caméra, de laisser les choses exister, quoi, moi je trouve.
Alors pas dans le striptease où parfois on rigole, vous savez, il y a des épisodes de striptease où vous avez le gars qui va construire une navette pour les extraterrestres,
oui.
Où on a ce côté un peu moqueur quand on va regarder, mais après c'est aussi notre position de téléspectateur, téléspectatrice, donc je trouve qu'il n'y a pas ce jugement de valeur que parfois a été accusé un petit peu cette émission striptease, que par ailleurs on peut beaucoup aimer, hein. Mais effectivement il y a un regard qui est juste posé, il y a très peu d'intervention, il y a juste un moment où la caméra s'affole parce qu'on sent qu'il faut qu'il se dégage pour pouvoir capter ce groupe de musiciens qui vient chanter et jouer d'un seul coup dans cette minuscule échoppe, voilà, pour boire un café, un thé, hein. Mais sinon c'est vrai qu'on peut dire que c'est la force du film, c'est Malika.
Oui, c'est elle qui porte tout, en fait. De toute façon, c'est sur elle. Hein.
Voilà, ouais. C'est sur elle, et c'est les gens qui
sur l'Algérie, mais oui.
Et c'est quand même, ça nous raconte une Algérie, et plutôt une Algérie assez intéressante, je trouve, dans ce film. Donc, 143 rue du désert, à voir au cinéma.
Voilà, c'est, on fait quoi après?
Eh bien, je vais continuer un petit peu pour te dire qu'il y a donc eu des élections en Algérie. Alors, ici, donc, je le disais en introduction, un fort taux de non-participation. En Algérie, 77% des gens ne sont pas allés voter, pour ceux et celles qui avaient la possibilité de le faire. Pour te dire, en Kabylie, bon, région particulière en Algérie, c'est 1% des gens qui sont allés voter. Donc c'est une région particulière, hein, oui. Où il y a des urnes qui ont été détruites, les centres de vote, les bureaux de vote ont été fermés, claquemurés. Mais d'une manière générale, cette Algérie nouvelle qui devait arriver avec le départ de Bouteflika, pour l'instant il se retrouve pas dans les urnes. C'est le Front de Libération Nationale qui a remporté le plus grand nombre de sièges à ces élections législatives, alors que tout le monde disait que le parti était discrédité et que jamais plus nous ne reverrons le FLN. Ben c'est pas le cas. Ça, c'est déjà un premier état. C'est pas bon signe, hein, que ça soit la FLN qui se retrouve parti conservateur, encore une fois, avec une majorité de sièges. Mais ça veut dire surtout que le président Tebboune n'arrive pas à créer une autre dynamique que celle qui avait été, qu'il espérait instaurer en remplacement de Bouteflika. Mais en même temps, M. Tebboune n'est pas certainement le grand démocrate qu'il avait prétendu être. Il est peut-être encore trop proche des militaires. On dira aussi que c'est une assemblée qui est très masculine, hein, puisque sur tous les sièges, il n'y a que 35 femmes. Donc ça ne fait pas beaucoup. Hein. Il y avait 8000 candidates. Mais il faut dire qu'il y avait un système de quotas qui avait été instauré en 2012 et ce système de quotas a été enlevé. Alors on peut trouver ça bien ou pas bien, les quotas, mais dans un pays comme l'Algérie, c'était important que ça puisse exister parce que la position de la femme... pas très favorable, on va dire, et que ça faisait partie aussi d'une dimension importante dans le cadre d'un renouveau de l'Algérie et d'une nouvelle démocratie, d'avoir des femmes présentes dans la vie électorale, dans la vie politique, mais d'une manière générale, dans la vie tout court. Donc là, c'est pas très très bien. Alors, les électeurs et les électrices ne se sont pas déplacés. Pourtant, il y a eu une révision constitutionnelle en novembre 2020. Il devait y avoir des modifications de cette démocratie, sauf qu'on se retrouve toujours avec un régime très présidentiel, comme chez nous, hein, il n'y a pas à se leurrer. Mais il y avait eu des tentatives présenter des candidats dits indépendants. Il y a de l'argent qui avait été mis pour que des gens puissent participer à ces élections, hein, pour créer donc cette Algérie nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a été le grand truc de M. Tebboune, mais finalement, les gens ne sont pas allés voter. Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a eu un mouvement, hein, le IRA, qui a été largement réprimé par le nouvel gouvernement. On rappelle, c'est en 2019, début 2019, en février, l'idée c'était de virer M. Bouteflika, de donner une vraie démocratie sans corruption à l'Algérie. Le Irak est donc descendu dans la rue, il y a eu beaucoup de manifestations, mais il y a une répression absolument hallucinante. On dit qu'à peu près aujourd'hui, les chiffres sont assez fluctuant, mais parce qu'en fait, continuellement, il y a des arrestations. Il y aurait 300 personnes incarcérées pour des liens avec le Irak ou les droits humains en Algérie. Des ONG algériennes qui ne cessent de se regrouper et de dire que l'Algérie est rentrée dans un processus de répression extrêmement grave avec des atteintes aux libertés fondamentales, aux droits humains en Algérie. Mais tout ça continue à se passer. On ne peut pas dire qu'au niveau international, il y a quand même beaucoup de réactions. Là, juste avant les élections, il y a eu quand même des arrestations au sein du mouvement Irak. La Ligue des droits de défense des droits de l'homme en Algérie a raconté qu'il y a un certain nombre de personnes marquées comme étant essentielles au mouvement Irak avaient été arrêtées juste avant les élections. Des gens qui sont aussi proches des journaux indépendants, médias indépendants, qui globalement ont fait taire les oppositions, et c'est toujours le cas aujourd'hui en Algérie. Ça l'était avant avec M. Bouteflika, ça l'est toujours aujourd'hui avec M. Tebboune. Donc on a un vrai souci toujours en Algérie, c'est que cette démocratie, elle ne se met pas en place, que de toute façon, on a un président qui a fait croire qu'il allait être un grand démocrate, alors qu'il ne l'est pas. Et là, il y a quand même des lois qui sont extrêmement liberticides, puisque la notion de terrorisme a été élargie, ce qui fait que des participants et des participantes au mouvement Irak se font arrêter, se font réprimer sur cette notion de terrorisme. Il y a une nouvelle ordonnance qui a été... mis en place. Donc c'est quand même une grande catastrophe démocratique qui est en train de se passer en Algérie, et le fait que les gens n'aient pas été votés est beaucoup plus symptomatique que chez nous, si vous voulez. Les gens ne souhaitent pas aller voter pour du rien. Et puis il faut savoir que du côté du IREC, on avait appelé à boycotter ces élections, donc bah, forcément ça a certainement eu une répercussion importante. Et c'est aussi sur ça que le président a attaqué le mouvement Irak et une partie de ses représentants et de ses représentantes, c'est de dire que c'était des gens qui étaient antinationalistes contre l'Algérie, puisqu'ils appelaient à boycotter des élections, et c'est pour ça qu'il fallait les arrêter. Vous voyez un petit peu le cheminement intellectuel. Donc il y a quand même des villes où ça continue à manifester, mais c'est vrai qu'à Algérie, les mouvements ont été largement écrasés, il y a la police, donc les gens sortent beaucoup moins dans la rue dans le cadre de ces appels du mouvement Irak. Voilà, mais même si ça se passe encore ailleurs, on peut dire que la répression, elle est comme de partout. Hein, ça casse les mouvements. Et puis, il faut dire qu'il y a des gens quand même importants qui sont arrêtés. Là, c'est Fatih Abriki qui a été arrêté la semaine dernière. Alors, c'est une grande dame des droits humains en Algérie, universitaire. Elle est plutôt jeune, elle est à la retraite. Elle s'est battue contre la torture, par exemple. Elle a été arrêtée. Son domicile a été perquisitionné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Algérie, eh ben, encore une fois, on ne sait pas pourquoi elle a été arrêtée. On n'a pas de motif. Pourquoi Fatih a été arrêté, on ne sait pas. Donc la garde à vue a été prolongée. Mais c'est pas la seule. Là, on avait eu Abdelali Rezaghi, qui est universitaire, qui est analyste politique, qui va souvent dans les médias, qui tente aussi de rompre une certaine censure, qui a été aussi arrêté. Donc on a des gens qui sont des figures intellectuelles, des figures des droits humains, qui en Algérie continuent à être arrêtés. Et puis on a les militants et les militantes plus classiques qui se prennent une répression assez terrible. Et puis à côté de ça, vous savez, il y avait les histoires avec la chaîne France 24 qui a perdu son accréditation d'émettre en Algérie. France 24 est accusée d'être là aussi anti-Algérie. Mais il faut dire que c'est une télé qui a beaucoup rapporté les mouvements irakiens, qui a été faire du reportage, qui a été dans la rue, qui a filmé les manifestations. Et lundi 14 juin, on avait appris donc le retrait de l'accréditation en Algérie pour France 24. C'est évidemment une atteinte à la liberté de la presse. La Fédération internationale des journalistes était montée au créneau pour dire que c'était quand même un problème qu'au moment des élections on fasse fermer une chaîne, même si elle est étrangère et indépendante, et même si on n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait, c'est quand même une liberté de la presse qui est attaquée. Voilà, donc on a en Algérie une situation qui n'est pas forcément géniale. Hein, en termes de démocratie, et les élections avec un boycott ou en tout cas une abstention record semblent démontrer que les gens n'ont pas confiance dans les élus et les représentants et représentantes qui avaient candidaté ou qui s'étaient représentés pour ces élections. Ça n'a pas l'air d'aller vers le mieux pour ce qui se passe en Algérie.
Alors on va parler un petit peu de l'armée maintenant et du retour du service militaire sous un nouveau nom, c'est l'astuce, ça s'appelle le Service National Universel ou SNU. Alors ça a démarré lundi de cette semaine, sous protocole sanitaire bien sûr, 18 000 jeunes pour l'instant volontaires, puisque ça va devenir obligatoire d'ici peu. On ne sait pas quand d'ailleurs, parce que pour l'instant c'est un petit peu flou. Donc ce séjour, ou plutôt ce dispositif de formatage de la jeunesse, parce que c'est de ça dont il est question, ça va se tenir, ça a commencé lundi, ça va aller jusqu'au 2 juillet. Les jeunes volontaires sont accueillis dans 134 centres, supervisés par 3000 encadrants, dont des militaires, beaucoup de militaires. Alors c'est destiné aux filles et garçons âgés de 15 à 17 ans. Il y aura plusieurs phases dans ce SNU. Pendant 15 jours, les jeunes participent d'abord à une sorte de truc qu'ils appellent le séjour de cohésion, moment de vie collective, donc loin de chez eux. Après ce séjour de cohésion, les jeunes participent à une sorte d'engagement dans une association, une administration ou un corps en uniforme, c'est comme ça que ça s'appelle, pour réaliser ce qu'ils appellent une mission d'intérêt général de 84 heures. Voilà les deux parties du SNU. Alors c'était lancé en 2019, ça avait été expérimenté donc en 2019 avec 2000 jeunes dans 13 départements, et l'année dernière, en 2020, on avait, le gouvernement avait prévu d'élargir tout ça à au moins 30 000 jeunes. La crise sanitaire est arrivée et ça a bloqué un petit peu tout. Tant mieux, dirons-nous. Voilà. Pour les armées, le SNU, ce nouveau service national universel, c'est important. Ça s'inscrit dans un plan que l'armée appelle « Ambition armée jeunesse ». C'est le nom que donne l'armée française à ça. Actuellement, la clé de voûte de ce « Ambition armée jeunesse », c'est un général qui nous l'explique, Daniel Menanouin. C'est lui, il est directeur du Service national de la jeune et de la jeunesse du ministère des Armées. Pour l'instant, ça s'appelle la journée de la JDC, la journée de défense et de citoyenneté. Ça a été, par exemple, effectué par 793 000 jeunes l'année dernière, enfin 2019, la dernière année normale, on va dire. Le but pour l'armée, c'est de remplacer cette JDC, l'armée et l'État, derrière, par ce SNU. Donc, avec à peu près la même chose, enfin, en beaucoup plus forte, beaucoup plus de propagande, on va en parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, si on va sur le site du gouvernement, le SNU, voici ce qu'on nous dit. On nous dit, le SNU s'adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans, pour une société de l'engagement bâtie autour de la cohésion nationale. Il vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la nation, promouvoir la notion d'engagement et favoriser un sentiment d'unité nationale autour des valeurs communes. Alors là, vous avez eu nation nationale trois fois déjà. Hein. Vous avez compris le côté nationaliste hein, de la chose. On nous explique ensuite, le SNU n'est en aucun cas le rétablissement du service militaire suspendu en 97. Le dispositif vise à faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons, militaires, hein, mais nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoire, de personnes, d'activité ou d'engagement. Une aventure inclusive et universelle pour donner aux jeunes les clés de leur avenir commun.
Ils ont réussi à te mettre inclusif au milieu de tout ça, c'est bon, Marc.
Voilà. Bon, au final, c'est beaucoup moins idyllique que ça. Qu'est-ce que va être ce SNU? Alors, c'est d'abord un truc militaire. On le sait depuis le début. En mars 2017, durant la campagne présidentielle, le futur président Emmanuel Macron évoquait un, je cite, « service national de durée courte, obligatoire et universel, encadré par les armées et la gendarmerie nationale ». Voilà ce qu'il avait prévu, voilà ce qui se met en place. Il expliquait « au travers d'une expérience directe de la vie militaire », de ses savoir-faire et de ses exigences, chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens et concitoyennes, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des filles aussi, hein. Fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant un mois. Ce temps de service militaire universel devra intervenir dans les 3 ans suivant le 18e anniversaire de chacun. Voilà ce qu'il avait annoncé à l'époque. Alors, le projet SNU a ensuite subi quelques petites modifications, pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, un truc qui se rapproche hein, de la préparation militaire, mais sans utilisation d'armes. Voilà, c'est ça la différence, et la durée qui n'est pas la même que celle de l'ancien service militaire, bien évidemment. Grosso modo, c'est quand même très proche du service militaire. Les jeunes sont regroupés par brigade, donc brigade c'est un truc militaire, hein, c'est pas par groupe, par amitié, par de 200 jeunes, dans des centres gérés donc par un chef de brigade, et 3 adjoints, avec un réveil à 6h30 du matin, voilà, vous levez à 6h30, le port de l'uniforme, ça fait rêver, hein, le lever du drapeau, et le chant de la Marseillaise. Des journées réglées comme ça, à la minute, vous avez droit à 1 heure de temps libre par 24 heures. Ouh, ça rigole pas, hein. C'est l'armée, on vous dit. Donc l'encadrement essentiellement composé de militaires, de gendarmes ou de policiers, quelques petits animateurs associatifs, histoire de cautionner une ouverture sur le monde réel, mais pas plus loin que ça. On voit bien avec le vocabulaire, hein, brigade, uniforme, lever des couleurs, lever du drapeau, discipline, tout ça, on est bien, malgré le discours inverse du gouvernement, dans un service militaire. Alors, lors de la première phase de ce SNU, les journées se passent à écouter des cours sur l'obéissance, sur les armées, sur la manière dont fonctionne l'armée ou la gendarmerie, le sens de l'engagement, et après toute la propagande, pourquoi l'armée est utile, pourquoi la dissuasion nucléaire est utile, après quelques petites épreuves, un peu physiques, un peu de sport quoi, peut-être une initiation au code de la route, au premier secours aussi, des débats. On ne sait pas bien ce qu'il y a dedans, mais sur la sexualité et l'environnement, nous annonce-t-on. Ouh. Voilà. Grosso modo, tout est organisé comme une propagande d'État, avec derrière l'idéologie de la soumission. Hein, on nous a bien expliqué, il y aurait des chefs, etc. Enfin, c'est une structure pyramidale. Il faut apprendre aux jeunes à obéir. Et c'est de ça dont il est question avec ce SNU. L'école, a priori, apprend pas assez à obéir, hein, de ce que j'ai compris. Et puis, il faut valider la politique. Il faut faire aimer l'armée, la guerre, les armes, le fait qu'on vende des armes au Yémen, à l'Arabie Saoudite, pardon. C'est pas gênant. Ils tuent, ils massacrent des gens, mais c'est pas gênant. Voilà. Il faut faire accepter tout ça. Il faut faire accepter la dissuasion nucléaire. Il faut faire accepter d'obéir. C'est l'objectif. Comme ça l'a toujours été, d'ailleurs, quelque part, hein, des services militaires, quel que soit le pays. Voilà. Ce qu'on peut casser dans le discours, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils vont faire, quelque part, ça y est déjà. C'est déjà fait ailleurs. Donc, c'est des fausses justifications. Alors, par exemple, j'en ai pas parlé, mais ils disent, on va faire un bilan de santé. Alors, c'est des élèves qui vont être à peu près aux alentours de la troisième. Sauf que en troisième, au collège, comme en sixième, il y a un bilan de santé qui est fait. Alors, quand il n'est pas fait, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins scolaires. Ah, ben, c'est parce qu'on ne met pas les moyens là. On met les moyens dans l'armée, forcément. Et, c'est pareil, dans l'idée de, d'apprendre les gestes des premiers secours. Mais ça y est, dans les textes de l'éducation nationale. Si ce n'est pas fait, ben, c'est qu'on a mis l'argent ailleurs, notamment à l'armée, plutôt que dans l'éducation nationale. Il y a pas les activités sportives. Bah, si, là où c'est fait, c'est dans l'éducation nationale. Avec l'EPS, il y a tout, voilà, du sport scolaire en plus, il y a plein d'activités physiques et sportives dans les collèges et dans les lycées. Donc en fait, toutes les justifications de ce que donne l'État, c'est vraiment que de la propagande. Et je ne vous parle pas de transmettre le socle républicain. Je rappelle qu'il y a des cours dans l'éducation nationale de morale et de civique, en collège et au lycée. Donc en fait, tout existe déjà. Ils cherchent à justifier juste le fait de pouvoir arriver à formater mieux. Ce que le gouvernement signale comme problème, c'est que l'éducation nationale, elle ne formate pas assez. Pourtant, elle formate beaucoup, l'éducation nationale, mais pas assez. Et on apprend à réfléchir, la liberté d'expression, à ne pas obéir forcément tout le temps. Tu vois. Il y a des trucs comme ça. En philo, on discute pas mal de ça aussi. Du coup, ce n'est pas ça que veut l'État. L'État, il veut des citoyens qui obéissent. Du coup, l'idée de remettre ça, c'est de remettre ce SNU, c'est de remettre, de faire obéir les jeunes à l'État, aux lois, à tout ça. Alors, autrefois, si vous êtes suffisamment âgé comme moi, vous avez connu, on pouvait échapper à l'armée. Il y avait ce qu'on appelait, l'objection de conscience. J'avais perdu le nom. On l'utilisait plus depuis. Longtemps, depuis 97, hein. L'objection de conscience, c'est-à-dire que en conscience, je ne veux pas obéir aux ordres d'un militaire, je ne veux pas faire tout ça. Donc, il y avait ça qui a été mis en place. Tardivement, on rappelle, c'est 1983. Avant, quand on refusait de faire l'armée, on allait en tôle. Ce que veut remettre, d'ailleurs, le gouvernement, puisque, comme le dit, c'est Attal, je crois, qui est chargé de ça au gouvernement, lui, il a dit, il y aura des sanctions. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais avant, ça allait jusqu'à la prison. Hein. Si vous faites pas... Là, les sanctions seraient plutôt interdiction de passer le permis de conduire, interdiction de passer des examens. Voilà, tu n'as plus le droit de passer le bac, de quel que soit le diplôme. Voilà, c'est pas mal hein, comme truc. C'est quasi pire que la prison, puisque ça te bloque dans toute ta vie derrière. Hein. C'est un truc assez incroyable.
Je ne crois pas que c'est quasi pire de la prison. On va retirer quand même cette allégation.
Non, mais entre 15 jours de prison et l'interdiction définitive de passer des examens, je ne sais pas ce qui est le pire. Bon, ça doit se valoir.
Mais c'est des jeunes quand même. Enfin, je veux dire, ils sont très jeunes pour imaginer des sanctions de ce type.
Bon, pour l'instant, ce n'est pas fixé. Hein. C'est ce qu'il annonce Attal, Gabriel Attal. Gabriel a son prénom. Donc lui, pour lui, l'objection, elle ne doit pas exister parce qu'en fait, il n'y a pas de maniement d'armes. Et c'était le maniement des armes que l'objection de conscience rejetait. Alors là, ils réinventent l'histoire. Hein. Les objecteurs de conscience, ceux qui refusaient de faire l'armée, il n'y avait pas que les armes. Il y avait refusé d'obéir à des ordres.
La guerre.
Et refuser l'armée. C'était des pacifistes.
La guerre, oui.
Et le pacifisme est rejeté par ce gouvernement, par Attal, par tous ces va-t-en-guerre. Hein. Ils font des guerres au Mali et tout ça. Donc on sait très bien, ils vendent des armes à tout le monde pour tuer des gens. Ils ne vont pas défendre la paix et le pacifisme, hein, bien évidemment. Donc là, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, ce service, il n'y aura pas d'objection de conscience. On ne pourra pas y échapper. Ça va être très compliqué. Je souhaite bien du courage aux jeunes. Alors, il y a pas mal d'opposition. Il y a la FAGE, dans les assauts d'étudiants. Il y a eu un peu comme ça. Alors, tous les mouvements pacifistes, hein, on connaît le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, dont j'ai tiré pas mal d'infos d'ailleurs chez eux. La FCPE, la FSU... Mais il ne s'est rien passé. Ça fait 2 ans que ça existe. Ça a commencé l'année dernière. Cette année, c'est reparti. Il n'y a aucun mouvement, aucune mobilisation. Alors, soit les jeunes, ils ont perdu le cerveau déjà avant, soit ils acceptent.
Mais il y a des parents aussi derrière qui pourraient s'opposer aussi à cette manipulation de leurs enfants, de leur progéniture.
Et je te rappelle que quand tu veux faire une manifestation qui marque, il faut être jeune. Parce que quand les jeunes sortent dans la rue, ça fait peur au gouvernement. Mais en tout cas, il n'y a pas de mobilisation contre ce SNU. Il y a les vieux comme nous, les vieux pacifistes, les vieux anti-armées qui sont mobilisés. Mais on n'a rien vu venir. Il y a pas de dans les collèges ça bouge pas, dans les lycées ça bouge pas. Et il y a, je sais pas, soit une acceptation, soit une méconnaissance du sujet. Parce que comme c'est pour l'instant pas généralisé, c'est peut-être ça qui fait le truc. Mais en tout cas, c'est hyper inquiétant pour l'avenir.
Parce que moi, je me souviens aussi que un des arguments, alors il y a des gens qui, évidemment, même dans nos politiques aujourd'hui, beaucoup dans nos politiques aujourd'hui, prétendent que il faut remettre un service militaire parce que c'est comme ça, parce qu'il faut faire l'armée, parce que c'est comme ça, et comme tu le dis, il y a le principe d'autorité. Et puis on avait, moi, je me souviens, beaucoup débattu avec des gens de l'extrême gauche, en particulier des cocos, mais pas que, hein, des socialos aussi, qui pensaient qu'il fallait garder un service militaire parce que le droit de défendre la nation ne devait pas être dans les mains de professionnels, mais des citoyens et des citoyennes. C'était un argument sur lequel, moi, je me suis opposée, mais qui était un argument à l'époque valable, parce qu'il parlait du droit à défendre le pays, et c'était un des arguments qu'on entendait parfois à gauche, un peu moins à droite, mais qu'on entendait et qui amenait du débat et de la contradiction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plutôt un nationalisme basique sur pourquoi il faudrait faire un service militaire.
Surtout que la Deuxième Guerre mondiale nous a montré que c'est pas forcément l'armée qui va résister, mais c'est des groupes de résistants qui sont pas militaires et qui vont faire des choses. Et l'armée, elle a plié devant les nazis et elle a collaboré après. Hein, on rappelle, la gendarmerie a arrêté les juifs. Donc en fait, si un jour il y a une guerre, il faut se défendre contre je ne sais quoi, eh ben il y aura pas que l'armée, il y aura aussi les autres. Et c'est les autres qui ont, souvent c'est les peuples qui arrivent à faire plier les choses, plus que les militaires, hein, en tout cas dans ces derniers temps.
En tout cas, ce qu'on voit à travers le monde, c'est que quand une guerre civile où se met en place, les gens savent assez rapidement se servir d'une arme. Oui. Donc dire aussi que grâce à l'armée, tu sauras te défendre et savoir te servir d'une Kalachnikov, c'est un peu mensonger, puisqu'on a malheureusement, les gens à travers le monde apprennent très très vite à savoir tuer en utilisant une arme de guerre.
Oui, ou même à savoir résister. On a l'exemple des Kurdes, des mouvements kurdes qui ont résisté.
Alors après, eux, ils s'entraînent aussi. Hein.
Mais ils partaient de zéro, ils sont entraînés, mais ils ont, voilà, ils arrivent donc, à résister. Voilà.
Mais pour dire, il n'y a pas besoin de taper son service militaire pour savoir faire tout ça, quoi. C'est à moi ?
Oui.
Tu es sûr ?
Bah oui, après je ferai Epsilon.
Alors, nous parlerons donc science après, messieurs, dames. Je vais repartir avec mes élections, on va partir en Arménie. Alors vous savez qu'il y avait des élections anticipées.
Suite à la guerre au Karabakh, c'est ça ?
Ouais. Perdu par l'Arménie, hein, assez piteusement, il faut le dire. En tout cas, il y a une humiliation qui est vécue comme telle en Arménie. Et on a donc un président, Nicole Pachinian, qui se représentait face à son ennemi, Robert Kocharyan, ancien président proche de Vladimir Poutine. Il aime bien dire que c'est son ami de longue date. Des élections législatives anticipées, voilà, suite à cette crise avec la guerre, l'Azerbaïdjan et le Karabakh. Alors, il faut dire que... Alors, tout à l'heure, je m'emballais un peu en vous disant qu'il y avait eu une forte participation. Non. Mais c'est dire que chez nous, elle est tellement pourrie qu'on trouve qu'ailleurs, c'est miraculeux. Il y a eu un taux de participation à 49,4%. C'est pas fantastique. Non, c'est pas fantastique. Il faut arrêter de penser que quand on a moins de la moitié des votants et des votantes qui se déplacent, que c'est bien. En tout cas, dont la voix, le suffrage est accepté en résultat. On ne savait pas trop qui allait gagner. Les sondages étaient dans un flou. Mais alors, un flou. Tous les experts qu'on entend sur nos radios, sur France Info, les gens là, personnellement, je trouve que ce sont des parasites qu'on entend dans les médias nous dire, alors le sondage nous explique en Arménie, ce serait mis les deux pieds dedans, parce qu'en fait, c'était incapable de savoir quel allait être le résultat de ces élections anticipées. Et donc, c'est Nicole Pachinian qui, Premier ministre, a gagné avec son parti ces élections, avec 53,9% de ce passage, donc devant les électeurs et les électrices. C'était pas tellement attendu parce que sa position pacifiste face à l'Azerbaïdjan, il y a eu un vrai mouvement de contestation en Arménie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais des gens avaient voulu rentrer dans le parlement. Il y a eu du saccage à l'intérieur. Il y avait eu un grand mouvement assez violent qui avait contesté ce côté pacifique de ce premier ministre arménien. Et pourtant, c'est son parti contrat civil qui a gagné devant celui de Robert Kocharyan, largement derrière, avec 21,04% des voix. Donc il n'y a pas photo. Hop, sur la ligne, c'est bien le Premier ministre Nicole Pachinian qui garde la main sur l'Arménie. Alors en même temps, il y a eu une campagne assez courte. Ça explique peut-être aussi ce taux de participation finalement pas très haut, c'est que il y avait 25 formations qui se sont présentées et la campagne n'a fait que tourner autour de l'adversité entre Robert Kocharyan et Nicole Pachignan. Ça n'a tourné que autour de ça. Donc c'est-à-dire que les autres formations n'ont que très peu existé dans ces deux semaines de campagne, autant médiatiquement que je sais pas si on a eu un problème avec Adexo pour la remise des ouais. bulletins dans les boîtes aux lettres, je ne sais pas. Vous savez, avec ces multinationales, nous ne savons plus bien comment il faut entrevoir les choses. Mais en tout cas, ça, c'est un des reproches qui a été fait à cette campagne. C'est peut-être une campagne trop courte, mais en même temps, on avait une campagne, enfin, des élections anticipées. Mais surtout que tout a tourné entre deux adversaires et puis que tout le monde a oublié les autres. Et donc, peut-être ce qui a amené un petit peu aussi sur la table, c'est que les gens n'ont pas trop osé aller voter pour les petits partis ou les nouvelles formations qui auraient pu ramener peut-être aussi un renouveau dans cette démocratie arménienne qui a encore besoin de faire son chemin. On rappelle que si Kocharyan il s'était fait dégager, rappelons-le, avec 70% du scrutin pour Nicole Pacharyan en 2018, après une révolution de velours, c'est parce que c'est aussi un pays qui a subi la corruption.
Oui, puis lui, il part sur un discours plutôt pro-européen.
Ah bah il était dans l'opposition déjà, ouais. pro-européen, il voulait se battre contre la corruption, amener une nouvelle démocratie, donc c'est vrai qu'il y avait quand même ça dans le jeu en 2018. Kocharyan, lui, il a rien changé à la donne, mais c'est vrai que c'était le candidat de la Russie aussi.
C'est ça, ouais.
Donc ça continue a priori à poser problème dans les urnes, il y a quand même des gens qui ne souhaitent pas que la Russie remette, même si aujourd'hui c'est plus l'Union soviétique, mais en tout cas que M. Poutine ne revienne pas sur le devant de la scène en Arménie. Et finalement, cette guerre en Azerbaïdjan, le pacifisme de M. Nicole Pachignan a peut-être joué un rôle, mais on ne sait pas à quel niveau cela a pu perturber le résultat de ces élections. En tout cas, bon, son parti gagne ces élections législatives. Monsieur Kocharyan tout de suite dénoncé des falsifications planifiées à l'avance, je le cite, et demande donc des expertises pour savoir s'il n'y aurait pas eu de la fraude au moment de ces élections. Bon, ça n'attend pas grand-chose de la part de ce pro-Poutine ami de Vladimir. Mais voilà, des élections anticipées en Arménie. Voilà, reste que quand même les suites de cette guerre en Azerbaïdjan a quand même un coup et amène un contre-coup. On a des déplacés, un territoire perdu.
Un bout de territoire perdu.
Ben, un territoire perdu, ouais. Enfin, bon, voilà, il n'est pas très gros, mais ça a amené des déplacés et puis beaucoup de morts dans l'armée quand même. Il y a 3500 décès chez les soldats. Donc, ça reste ça quand même dans l'actualité. C'est pesant pour le gouvernement et c'est pesant aujourd'hui en Arménie d'avoir ce voisin quand même plus qu'envahissant, c'est rien de le dire. Et donc, on sait que c'est aussi des Arméniens qui ont peut-être aussi voté pour un pro-européen en espérant que l'Europe remette son nez dans ce conflit avec l'Azerbaïdjan. Ce qu'elle a fait un tout petit peu, mais ce que peut-être certains et certaines se disent que ça pourrait continuer, en tout cas prévaloir pour la suite, avec un pays voisin quand même assez belliqueux, il faut le dire.
Oui.
Je vais partir en Suède et puis pour dire qu'il y a un Premier ministre qui s'est fait renverser quand même par une motion de défiance. C'est quand même assez historique. Alors il s'appelle Stefan Löfven, Premier ministre suédois qui était là avec une espèce de coalition vert, gauche, socialo, démocratie, tout ça, assez... c'était fragile, tout ça. Et puis on a eu les groupes d'extrême gauche qui ont commencé à s'attaquer à ce projet de réforme de la libéralisation des loyers pour les nouvelles constructions. C'est un sujet extrêmement sérieux en Suède, puisqu'en fait vous avez une association. Alors, je prends ma respiration et sans l'accent, parce que je n'ai pas fait suédois, parce que c'est très guttural et malheureusement je ne sais pas le faire. Hyresgästföreningen. Un truc comme ça. Donc c'est une association qui représente 3 millions de locataires et qui amène avec les propriétaires et qui amenait donc des négociations sur les loyers et c'est ça qui était remis en cause par Stefan Löfven, le Premier ministre suédois, alors sur la nouvelle construction. Mais même ça, ça ne passait pas. Donc il y a eu des désaccords, une crise du parti de gauche le 15 juin et puis que fait l'extrême droite ? Elle demande à faire voter une motion de défiance. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'extrême droite arrive à faire voter sa motion de défiance. Donc, le Premier ministre a maintenant plusieurs solutions. Refaire des élections ou démissionner. Donc c'est un peu le chamboulement en Suède. La formation d'extrême droite, pour vous la citer, elle s'appelle les démocrates suédois, hein, parce qu'on le sait bien, à l'extrême droite, il y a de la démocratie. C'est marrant comme c'est les extrêmes droites partout aiment à utiliser les mots des droits humains, hein, ou de la démocratie. Donc voilà, là on a quand même un petit souci, quand même cette espèce de motion de défiance qui a donc été votée et qui met finalement tout le monde un peu en difficulté, puisque si jamais il y a des élections qui sont reproposées, étant donné que la coalition elle était très friable et très peu fiable, ça va être peut-être difficile de pouvoir la repositionner, mais certains et certaines à l'extrême gauche que ça pourrait remotiver les électeurs à voter pour eux en tant que parti de voilà et de changer la donne. Voilà, l'extrême droite espère évidemment tirer son épingle du jeu si il y a des nouvelles élections là qui approchent tout de suite. En tout cas, s'il démissionne, de toute façon, ça va aussi régler le problème. Voilà, mais tout le monde est dans l'attente en Suède de savoir ce qui se passe maintenant.
Donc je voulais parler du magazine qui est sorti hier, il y a quelques temps, on avait parlé de ce qui s'était passé au sein de Science et Vie. On rappelle que je crois que c'est le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef avait démissionné. Ensuite, ils avaient viré une partie des journalistes pour garder essentiellement des pigistes. Science et Vie ayant changé de groupe, ils ont été rachetés par Reworld Media. Et l'idée de Reworld Media, mais comme du groupe d'avant, c'est de faire fructifier la marque Science et Vie, donc en organisant des croisières, en faisant des choses comme ça, et le magazine ne sert qu'à véhiculer cette marque. On est dans le capitalisme classique, hein. Du coup ils ont racheté une marque et ils s'en servent. Donc il y a eu ce conflit au sein de la rédaction, un des départs, volontaire ou forcé, et un projet qui s'appelle Epsilon, ou Epsilon, il y a deux O, en fait les deux O font un infini, de monter un nouveau magazine scientifique, voilà, une grosse campagne de financement participatif, là, sur je ne sais plus quel site, avec un succès incroyable.
Incroyable, ce succès, tout de suite.
Et le premier numéro sorti hier. Voilà. Donc, je l'ai lu aujourd'hui, le numéro 1, juillet 2021, de ce Epsilon, ou Epsilon, on va le prononcer correctement, nouveau magazine scientifique d'actualité scientifique. Alors déjà, au niveau format, hein, c'est pareil que Science et Vie, en hauteur, c'est la même, en largeur, ils ont gagné un centimètre. Le même type, c'est du collé sur la tranche, voilà, ça se rapproche beaucoup de Science et Vie. Au niveau 1, c'est les mêmes défauts flagrants de Science et Vie, c'est-à-dire c'est du racolage. Hein. Donc là, ça s'appelle « Comment la Chine va manipuler la météo », le titre. Quand on lit l'article, c'est intéressant parce que il y a plein d'infos bien sur ce. Mais on essaye de racoler. Ce que faisait.
Ce que faisait Science et Vie déjà.
C'est d'ailleurs ce que fait les trois quarts de la presse. Hein, voilà. C'est pas très original. L'avantage. Alors il y a un peu moins de pages, mais c'est le premier numéro. Il y a 99 pages. Science et Vie, on est aux alentours de 130-140. Par contre, pour l'instant, il y a quasi pas de pub. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier numéro et que c'est, donc, ils l'ont financé avec la campagne? On verra par la suite, parce que le gros défaut de Science et Vie, c'était d'avoir, notamment en début de magazine, des millions de pubs avec des pubs en contradiction totale avec les articles.
Ouais, ça leur a été souvent reproché, hein.
Donc, des pubs pour les bagnoles, parce que c'est un journal qui s'adresse aux hommes et donc c'est très ciblé, les pubs. C'est vraiment flagrant.
C'est que maintenant, les femmes achètent aussi des voitures.
J'espère bien et que ça fera peut-être,
t'espères pas bien parce que tu aimerais que les femmes, comme les hommes, n'achètent plus de voitures.
Oui, mais qui achètent des magazines scientifiques. C'était très genré quand même la pub dans Science et Vie, mais comme dans tous les magazines, je pense.
Oui, mais c'est vrai que dans Science et Vie, on retrouvait les pubs de bagnole, là je vais pas la citer.
L'homéopathie.
L'homéopathie, et puis l'alcool, beaucoup, et très genré aussi, souvent, même si nous savons, nous, les femmes, boire tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'était quand même assez thématique. Voilà, donc c'était bien, ça voulait dire que l'homme bourrin qui aime conduire des grosses bagnoles et boire de la bière...
Il lit aussi
des magazines scientifiques, donc c'était toujours très intéressant. Mais c'est vrai que ça contrastait quand même. Moi, les pubs sur l'homéopathie, on a été nombreux et nombreuses à écrire à Science et Vie pour leur dire que c'était absolument scandaleux.
Alors qu'ils font des articles qui démontrent que ça ne marche pas, l'homéopathie. Mais leur justificatif, c'est séparé, pas nous. La rédaction est séparée du truc de pub. Ouais. Bon, bref. Alors là, il n'y a plus ça. Alors, c'est le premier numéro, on verra après ce que ça donne. Au niveau contenu, on est quand même assez proche, c'est-à-dire de la vulgarisation. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais fait d'études scientifiques peut lire Epsilon. Hein. Ce qui n'est pas le cas certaines revues scientifiques. Pour la science, par exemple, c'est un peu plus ardu à lire. C'est plus sérieux quelque part.
C'est surtout qu'il y a
c'est
aussi
moins vulgarisé.
Science et vie, et là, donc, c'est aussi le cas. C'est, on l'avait dit la dernière fois, c'est-à-dire il y a tellement de sujets que toute la famille peut trouver à lire dans Science et vie. Et là, c'est l'idée aussi. Ce qui n'est pas le cas pour la science, où c'est parfois plus obtus et qu'il y a moins de sujets diversifiés. Dans Science et vie, tu peux avoir de l'anthropologie, peux avoir.
Si, pour la science, il y a ça, il y a chaque fois un truc sur les planètes, un truc sur la biologie.
Ouais, mais je trouve que voilà, c'est.
Là, on est dans le même ordre de grandeur. Là,
c'était vraiment plus familial, Science et vie, quand même.
Là, il y a un truc sur les arbres, un truc sur Jupiter, un truc sur la génétique, sur les tests des populations en France, les origines génétiques. Il y a un truc sur la physique quantique. Bon, voilà, c'est quand même assez varié, mais c'est vraiment ultra vulgarisé. C'est vraiment comme Science et vie, c'est accessible pour tout le monde. Si vous avez des envies un peu de science, il faut aller au-dessus. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça va donner sur les prochains numéros. J'ai quand même pas été hyper emballé.
Parce que je trouve que c'est pas assez démarqué et que ça ressemble trop à ce qui se faisait avant.
Ça ressemble beaucoup à Science et vie. Et puis, les articles sur les arbres, même si il y a quelques nouveautés, on n'avait pas tous en tête qu'il y avait des modifications, que les arbres, chaque branche est peut-être génétiquement différente du reste du corps de l'arbre, etc. Mais, il y a plein de trucs, c'est quand même plan-plan, mais c'est un premier numéro. En tout cas, ça vaut largement plus le coup que Science et Vie. Et moi, je dis, le magazine pour toute la famille scientifique vaut mieux Epsilon pour l'instant que Science et Vie.
Ce qui va vraiment être intéressant à suivre, c'est le nombre d'abonnements, parce que c'est ça qui fait de la trésorerie. Alors, il y a la publicité, bien évidemment, ce qui est pareil essentiel aujourd'hui pour un certain nombre de médias, mais qu'on sait ce qui va faire de la trésorerie, c'est l'abonnement tout de suite, et ce qui permettra au magazine du pouvoir vivre demain, c'est-à-dire même si jamais les gens demain renouvellent pas, s'il y a pas, en tout cas ça peut faire de la trésorerie tout de suite pour pouvoir continuer à faire des numéros, se développer, peut-être avoir malheureusement des partenaires pub, des annonceurs, mais en tout cas on sait va être mis en place et c'est ça qui va être intéressant à regarder, à surveiller.
Voilà, ils l'ont sorti au même prix que Science et Vie. Pour la science par exemple, il y a quasiment pas de pub parce que c'est un petit peu plus cher et on vise pas les mêmes choses. Donc on peut construire quand même un journal scientifique avec très peu de pubs, ce qui n'était pas le cas de Science et Vie. Epsilon, pour l'instant, est sur ce truc-là. On va voir si ça dure, parce que c'est quand même plus agréable à lire quand t'as pas des pubs toutes les semaines. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est leur premier numéro. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que un nouveau projet de revue, c'est un mensuel, entraîne autant d'adhésion. C'est vraiment un truc vraiment très très positif, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle. La presse écrite n'est pas morte. Ce sera toujours beaucoup mieux que n'importe quelle vidéo sur YouTube. Il faut lire de la presse écrite. Et la presse scientifique est ultra variée. Il y a 4 ou 5 grands titres que vous connaissez. La recherche a disparu et s'est fondée dans Science et Avenir. Il reste Science et Avenir, Science et Vie, Epsilon pour la science et quelques autres très spécialisés en astronomie ou des choses comme ça. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut partir si on veut avoir un petit peu de culture scientifique.
Eh bien, sur ces bons mots, on va vous laisser là pour ce jeudi. On se retrouvera la semaine prochaine. Nous serons peut-être, j'allais dire, au mois de juillet, mais non. Bientôt. Enfin, en tout cas, on est en été, quoi.
On est en été depuis un petit moment, déjà.
Un petit moment, on va peut-être pas pousser mémé dans l'ortie non plus. En tout cas, on vous souhaite une bien bonne soirée. Et on vous laisse soit avec des émissions, soit avec les bandes continues, les plus rebelles de la bande FM. Ciao.
Bye bye.